Chapitre 14. Repenser l'impôt progressif sur le revenu. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à la constitution et à l'évolution de l'État social en nous concentrant sur le contenu des besoins sociaux et des dépenses publiques correspondantes, éducation, santé, retraite, etc., et en prenant comme données le niveau global des prélèvements et son évolution. Nous allons maintenant, dans ce chapitre et dans le suivant, étudier plus précisément la structure des impôts, taxes et prélèvements qui ont permis cette transformation et tenter d'en tirer les leçons pour l'avenir. Nous allons voir que l'innovation majeure au XXe siècle en matière fiscale a été la création et le développement de l'impôt progressif sur le revenu. Cette institution a joué un rôle central dans la réduction des inégalités au cours du siècle dernier, mais elle est aujourd'hui gravement menacée par les forces de la concurrence fiscale entre pays, et aussi sans doute parce qu'elle a été mise en place dans l'urgence, sans être véritablement pensée dans ses fondements. Il en va de même de l'impôt progressif sur les successions, qui est la deuxième innovation importante du XXe siècle et qui a également été mise en cause au cours des dernières décennies. Mais avant d'en arriver là, il nous faut d'abord replacer ces deux outils dans le cadre plus général de la progressivité fiscale et de son rôle dans la redistribution moderne. La redistribution moderne, la question de la progressivité fiscale. L'impôt n'est pas une question technique. Il s'agit d'une question éminemment politique et philosophique, sans doute la première d'entre toutes. Sans impôt, il ne peut exister de destin commun et de capacité collective à agir. Il en a toujours été ainsi. On trouve au cœur de chaque bouleversement politique important une révolution fiscale. L'ancien régime disparaît quand les assemblées révolutionnaires votent l'abolition des privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé et mettent en place une fiscalité universelle et moderne. La Révolution américaine, née de la volonté des sujets des colonies britanniques de prendre en main leurs propres impôts et leur propre destin. No taxation without representation. Les contextes ont changé en deux siècles, mais l'enjeu essentiel reste le même. Il s'agit de faire en sorte que les citoyens puissent choisir souverainement et démocratiquement les ressources qu'ils souhaitent consacrer à leurs projets communs, formation, santé, retraite, inégalité, emploi, développement durable, etc. Fort logiquement, la forme concrète que prennent les impôts est dans toutes les sociétés au centre de la confrontation politique. Il s'agit de se mettre d'accord sur qui doit payer quoi et au nom de quels principes, ce qui n'est pas une mince affaire, tant il est vrai que les uns et les autres diffèrent en de nombreuses dimensions, à commencer bien sûr par le revenu et le capital. En particulier, il existe dans toutes les sociétés des personnes ayant un revenu du travail élevé et un capital hérité faible et inversement. Le lien entre ces différentes dimensions n'est fort heureusement jamais parfait. Les visions du système fiscal idéal peuvent varier d'autant. On distingue classiquement les impôts sur le revenu, les impôts sur le capital et les impôts sur la consommation. On peut retrouver des prélèvements relevant de ces trois ensembles à pratiquement toutes les époques, dans des proportions diverses. Ces catégories ne sont d'ailleurs pas exemptes d'ambiguïté, et les frontières ne sont pas toujours parfaitement claires. Par exemple, l'impôt sur le revenu concerne en principe les revenus du capital autant que les revenus du travail. Il s'agit donc pour partie d'un impôt sur le capital. On inclut généralement dans les impôts sur le capital à la fois les prélèvements pesant sur le flux de revenus du capital, par exemple sur les bénéfices des sociétés, et ceux assis sur la valeur du stock du capital, par exemple la taxe foncière, l'impôt sur les successions ou l'impôt sur la fortune. Les impôts sur la consommation comprennent à l'époque moderne la taxe sur la valeur ajoutée et les diverses taxes sur les échanges, les boissons, l'essence, le tabac et tel ou tel bien ou service particulier. Ces taxes existent depuis toujours et sont souvent les plus détestées de toutes les taxes et les plus lourdes pour les classes populaires, à l'image de la gabelle, taxe sur le sel, sous l'Ancien Régime. On dit souvent que ces impôts sont indirects, dans le sens où ils ne dépendent pas directement du revenu ou du capital du contribuable individuel. Ils sont payés indirectement, au travers du prix de vente, quand on fait ses courses. Dans l'absolu, on pourrait tout à fait imaginer un impôt direct sur la consommation, qui dépendrait du montant consommé par chacun, mais cela ne s'est jamais vu. Au XXe siècle, une quatrième catégorie de prélèvement est apparue, celle des cotisations sociales. Il s'agit d'une forme particulière de prélèvement pesant sur les revenus, en général uniquement sur les revenus du travail, salaires et revenus d'activité non salariés, et affectés aux caisses de sécurité sociale, principalement pour financer les revenus de remplacement, pension de retraite, allocation chômage, ce qui peut parfois permettre de clarifier la gouvernance et l'organisation de l'État social. Certains pays, comme la France, utilisent également les cotisations sociales pour financer d'autres dépenses sociales, comme l'assurance maladie et les allocations familiales, si bien qu'au total, les cotisations sociales représentent près de la moitié des prélèvements et ajoutent plutôt à la complexité. À l'inverse, d'autres pays, comme le Danemark, choisissent de financer leurs dépenses sociales au travers d'un énorme impôt sur le revenu, dont les recettes sont affectées pour partie aux retraites, au chômage, à la santé, et ainsi de suite. À dire vrai, ces distinctions entre différentes formes juridiques de prélèvement sont en partie arbitraires. Au-delà de ces querelles de frontières, un critère souvent plus pertinent pour caractériser les différents impôts concerne le caractère plus ou moins proportionnel ou progressif du prélèvement. Un impôt est dit proportionnel quand son taux est le même pour tous. On parle aussi de « flat tax ». Un impôt est progressif quand son taux est plus élevé pour les plus riches, ceux qui ont le revenu le plus élevé ou le capital le plus élevé ou la consommation la plus élevée, suivant que l'on considère un impôt progressif sur le revenu, le capital ou la consommation, et plus faible pour les plus modestes. Un impôt peut aussi être régressif, quand le taux s'abaisse pour les plus riches, soit parce que ces derniers parviennent à échapper pour partie à l'impôt de droit commun, légalement par l'optimisation fiscale ou illégalement par l'évasion, soit parce que le droit commun prévoit que l'impôt soit régressif, comme dans la fameuse poll tax qui a coûté à Margaret Thatcher son poste de premier ministre en 1990. La poll tax, adoptée en 1988 et abolie en 1991, était un impôt local, prévoyant une taxe d'un même montant pour chaque personne adulte, quel que soit le niveau du revenu ou du capital, d'où un taux d'imposition plus faible pour les plus riches en proportion de leur revenu ou capital. Si l'on prend en compte l'ensemble des prélèvements, on constate que l'État fiscal moderne n'est souvent pas loin d'être proportionnel aux revenus, surtout dans les pays où la masse de prélèvements est importante. Cela n'a rien d'étonnant. Il est impossible de prélever la moitié du revenu national et de financer des droits sociaux ambitieux sans demander une contribution substantielle à l'ensemble de la population. La logique de droit universel qui préside au développement de l'État fiscal et social moderne se marie d'ailleurs assez bien avec l'idée d'un prélèvement proportionnel ou légèrement progressif. L'impôt progressif, un rôle localisé mais essentiel. Il serait erroné cependant d'en conclure que la progressivité fiscale ne joue qu'un rôle limité dans la redistribution moderne. Tout d'abord, même si le prélèvement est globalement assez proche de la proportionnalité pour la majorité de la population, le fait que le taux s'élève sensiblement ou au contraire s'abaisse nettement pour les revenus ou les patrimoines les plus élevés peut avoir un impact dynamique très important sur la structure d'ensemble des inégalités. En particulier, tout semble indiquer que la progressivité fiscale au sommet de la hiérarchie des revenus et des successions explique en partie pourquoi la concentration des patrimoines à l'issue des chocs des années 1914-1945 n'a jamais totalement retrouvé son niveau astronomique de la Belle Époque. À l'inverse, l'abaissement spectaculaire de la progressivité sur les hauts revenus aux États-Unis et au Royaume-Uni depuis les années 1970-1980, alors même que ces deux pays avaient été le plus loin dans cette direction dans l'après-guerre, explique sans doute pour une large part l'envol des très hautes rémunérations. Dans le même temps, la montée de la concurrence fiscale au cours des dernières décennies, dans un contexte de libre circulation des capitaux, a conduit à un développement sans précédent des régimes dérogatoires concernant les revenus du capital, qui, un peu partout dans le monde, échappent désormais en grande partie au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cela concerne notamment l'espace européen, morcelés entre des États de petite taille qui se sont montrés incapables jusqu'à présent de développer un minimum de coordination en matière fiscale. Il en résulte une course-poursuite sans fin pour réduire notamment l'impôt sur les bénéfices des sociétés et pour exempter les intérêts, dividendes et autres revenus financiers du régime d'imposition de droit commun auquel sont soumis les revenus du travail. La conséquence est que le prélèvement fiscal est aujourd'hui devenu régressif au sommet de la hiérarchie des revenus dans la plupart des pays ou est en passe de le devenir. Par exemple, une estimation détaillée faite pour la France de 2010, prenant en compte la totalité des prélèvements obligatoires et les attribuant au niveau individuel en fonction des revenus et des patrimoines détenus par les uns et les autres, aboutit au résultat suivant. Le taux global d'imposition, 47% du revenu national en moyenne dans cette estimation, est d'environ 40-45% au sein des 50% des personnes disposant des revenus les plus faibles, puis passe à environ 45-50% parmi les 40% suivants, avant de se mettre à décliner au sein des 5% des revenus les plus élevés et surtout des 1% les plus riches, avec à peine 35% au niveau des 0,1% les plus aisés. Pour les plus pauvres, les taux d'imposition élevés s'expliquent par l'importance des impôts sur la consommation et des cotisations sociales, qui au total représentent les 3/4 des prélèvements en France. La légère progressivité observée à mesure que l'on s'élève dans les classes moyennes s'explique par la montée en puissance de l'impôt sur le revenu. À l'inverse, la nette régressivité constatée au sein des centiles supérieurs s'explique par l'importance prise par les revenus du capital et par le fait qu'ils échappent largement au barème progressif, ce que ne peuvent totalement compenser les impôts pesant sur le stock de capital, qui sont de loin les plus progressifs. Tout laisse à penser que cette courbe en cloche se retrouverait également dans les autres pays européens et probablement aux États-Unis, et qu'elle est en réalité encore plus marquée que ce qu'indique cette estimation imparfaite. Si cette régressivité fiscale au sommet de la hiérarchie sociale devait se confirmer et s'amplifier à l'avenir, il est probable que cela aurait des conséquences importantes sur la dynamique des inégalités patrimoniales et le possible retour d'une très forte concentration du capital. Par ailleurs, il est bien évident qu'une telle sécession fiscale des plus riches est potentiellement extrêmement dommageable pour le consentement fiscal dans son ensemble. Le relatif consensus autour de l'état fiscal et social, déjà fragile par temps de croissance faible, s'en trouve amoindri, notamment au sein des classes moyennes, qui, assez naturellement, ont du mal à accepter de payer plus que les classes supérieures. Cette évolution favorise la montée des individualismes et des égoïsmes. Puisque le système dans son ensemble est injuste, alors pourquoi faudrait-il continuer de payer pour les autres ? C'est pourquoi il est vital pour l'État social moderne que le système fiscal qui le sous-tend conserve un minimum de progressivité, ou à tout le moins ne devienne pas nettement régressif à son sommet. Il faut en outre ajouter que cette façon de représenter la progressivité du système fiscal en se plaçant du point de vue de la hiérarchie des revenus omet par définition de prendre en compte les ressources reçues par héritage, dont nous avons vu qu'elles devenaient de moins en moins négligeables. Or, l'héritage est en pratique beaucoup moins lourdement taxé que les revenus. Comme nous l'avons vu dans la troisième partie, chapitre 11, cela contribue à renforcer le dilemme de Rastignac. Si l'on classait les individus par centiles de ressources totales reçues au cours d'une vie, revenus du travail et héritage capitalisé, ce qui est une façon plus satisfaisante de se représenter la question de la progressivité, alors la courbe en cloche serait plus fortement régressive au sommet de la hiérarchie qu'elle ne l'est lorsque l'on considère uniquement les revenus. Enfin, il faut souligner que la mondialisation commerciale, dans la mesure où elle met une pression particulièrement forte sur les travailleurs les moins qualifiés des pays riches, pourrait dans l'absolu justifier un accroissement de la progressivité fiscale, et non pas une diminution, ce qui complique encore un peu plus le contexte d'ensemble. Certes, à partir du moment où l'on souhaite conserver un taux global de prélèvement obligatoire de l'ordre de la moitié du revenu national, il est inévitable que chacun soit mis à contribution dans des proportions importantes. Mais plutôt que d'avoir une très légère progressivité globale du prélèvement, si l'on accepte le sommet, on pourrait très bien imaginer une progressivité plus marquée. Cela ne résoudrait pas tous les problèmes, mais ce serait suffisant pour améliorer sensiblement la situation des moins qualifiés. Compte tenu de la faible mobilité intergénérationnelle, cela serait en outre plus juste du point de vue des critères de justice évoqués dans le chapitre précédent. Et si cette progressivité fiscale accrue ne vient pas, alors il ne faut pas s'étonner que ceux qui bénéficient le moins du libre-échange, ou parfois y perdent nettement, aient tendance à le remettre en cause. L'impôt progressif est une institution indispensable pour faire en sorte que chacun bénéficie de la mondialisation, et son absence de plus en plus criante peut aboutir à la remise en cause de cette dernière. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. Pour ces différentes raisons, l'impôt progressif est un élément essentiel pour l'État social. Il a joué un rôle essentiel dans son développement et dans la transformation de la structure des inégalités au XXe siècle, et il constitue une institution centrale pour assurer sa viabilité au XXIe siècle. Or, cette institution est aujourd'hui gravement menacée. Intellectuellement, les différentes fonctions de la progressivité n'ont jamais été pleinement débattues, et politiquement, la concurrence fiscale permet à des catégories entières de revenus de s'extraire des règles de droit commun.